Bonjour, c'est Danielle du Poitou. Je suis très heureuse, en écoutant votre émission sur les bovins, de faire part de quelque chose que j'ai trouvé merveilleux. On m'avait dit que les vaches dansaient. Et il y a longtemps maintenant, dans une prairie entourée de haies, j'ai vu des vaches en cercle qui dansaient. Ça m'a rendue très très joyeuse. Et je me suis demandé pourquoi elles dansaient comme ça. Et en m'approchant, je me suis rendu compte qu'elles étaient une jeune mère couchée dans l'herbe avec son petit veau. Je ne les ai pas dérangées, mais j'ai ressenti une grande joie et une grande peine à chaque fois qu'on parle des stabulations et de ce qu'on fait vivre à ces animaux. Voilà, c'est un de mes souvenirs les plus merveilleux concernant les animaux. Merci pour votre émission.
Bonjour, c'est Jean-Marie. Je suis paysan dans le bocage bourbonnais. Par rapport à la grippe aviaire, nous touchons là à la limite de l'agriculture industrielle. Agriculture qui met à bas toutes les défenses naturelles, si bien des plantes, des animaux, du sol. Le système immunitaire sont au plus bas de ces animaux claustrés et concentrés. Et manque de peau, les antibiotiques ne font rien aux virus. Contre les virus, il faut du bien-être, bouger, de l'air, du soleil, bah de la vie, quoi. Et ça fait 35 ans que nous y travaillons, en bio, bien sûr, avec des résultats très satisfaisants. Bah, merci pour le reportage grippe aviaire. Ça fait du bien, ne pas se sentir tout seul. Merci.
Bonjour, je m'appelle Mylène. J'habite à Saint-Aubin-de-Luigné, dans le Maine-et-Loire. Et je vous appelle au sujet des vaches. Juste pour vous dire que si les vaches ont des sentiments, nous on habite à côté de ferme, on a des vaches juste dans le champ à côté de chez nous. Et quand leurs veaux partent pour l'abattoir, eh bien pendant plusieurs jours elles font que pleurer. Eh bien, faut savoir que si elles pleurent comme ça, c'est que la vache a des sentiments comme tous les autres animaux. Et je voulais juste dire ça, qu'il faut arrêter de dire que les animaux n'ont pas de sentiments. Merci et je vous trouve super et merci pour vos émissions.
Bonjour, je m'appelle Marceau d'Arange dans le Lot-et-Garonne. Je voudrais savoir pourquoi nous sommes aussi différents que les autres animaux. Au revoir.
Bonjour, Norbert, donc Paris, mais de temps en temps d'Auvergne et du Cantal. Je voulais laisser un message pour les amateurs de salaire. Ce sont des vaches qui sont très sensibles à la musique. Quand je vais en Auvergne, j'entends, et en Cantal, j'emporte toujours un petit harmonica. Et même si elles sont à 150 mètres dans le pré, un petit air de blues ou de Dixieland, et elles arrivent gentiment au contact. Voilà. Ça peut être aussi une bonne solution pour aborder les plaisirs de la campagne. Salut!
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Et au sommaire de ce club de la Terre au carré, il sera question de la foudre pour comprendre la violence de ce phénomène lorsqu'il touche les humains. On s'intéressera au grand bordel de l'évolution avec un youtubeur star de la biologie et puis on donnera la parole à l'océan pour observer le monde avec ses yeux. Et pour en parler, je salue nos invités, l'autrice Claire Fercac, bonjour.
Bonjour.
Le youtubeur Léo Grasset, bonjour.
Bonjour.
Et la journaliste Juliette Lambeau, bonjour à vous.
Bonjour.
On va se retrouver dans un instant avec les messages, les questions des auditeurs, les témoignages également sur la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux, l'application France Inter, avec les notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
À 14h25, ce sera le journal des bonnes nouvelles.
Avec des écureuils au duc et une route fermée pour laisser passer les grenouilles et crapauds, des forêts tropicales très résilientes et un T-Rex de Noël.
Et bien voilà, pour le sommaire de cette émission réalisée par Charles de Cilia, préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier et Colin Postel-Gruel pour le dossier et la technique, c'est Sofiane Agtib. Aujourd'hui, on va y arriver.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Et on va démarrer ce club avec notre traditionnel tour de table. Claire Fercac, on va commencer avec vous tout à l'heure. Vous publiez chez Artaud un livre passionnant intitulé « Après la foudre ». Le 16 août 2015, Elena est frappée par la foudre et c'est toute sa vie qui va basculer. Comment est-ce qu'on appelle les personnes qui survivent à ces événements ?
Ce sont des fulgurés.
Ouais.
Donc la nuance est évidemment très importante puisque les fulgurés restent en vie, survivent à la décharge de foudre, alors que les foudroyés meurent.
Voilà, et donc on va en discuter avec vous et vous nous direz si Elena a vraiment existé. En tout cas, c'est l'occasion de pouvoir parler de ce phénomène. Léo Grasset, le livre dont vous allez nous parler s'appelle Le Grand Bordel de l'évolution. Il réunit vos mindfucks préférés, mais qu'est-ce qu'un mindfuck ?
Alors pour moi, un mindfuck, c'est une information qui change notre façon de voir les choses sur ce sujet.
Typiquement, c'est dans les films, en général, quand on apprend une information, on revisite tout le film à la lueur de cette information. Et en science, bah, ce sera, ah tiens, en fait, la sélection naturelle peut expliquer la mort. Donc là, on revoit toute la façon qu'on avait de voir la mort. Le truc, c'est que la biologie évolutive fournit énormément de mindfuck, comme ça. Des renversements cognitifs, je sais pas comment on pourrait traduire ça. Et c'est chouette, c'est très très chouette comme discipline.
Et puis enfin Juliette Lambeau, vous qui avez travaillé pendant plus de 20 ans en tant que reporter pour Thalassa, vous en êtes aujourd'hui la rédactrice en chef. Vous publiez Touche pas à ma mère, M-E-R évidemment, hein, chez Tana ouais. Édition. Pourquoi cette envie de faire parler la mère à la première personne ?
Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, depuis plusieurs années, les alarmes sur l'état du climat et sur l'état de l'océan ne cessaient d'affluer. Et finalement, on ne changeait pas, on ne changeait rien, comme si on ne voyait pas l'océan. Et je me suis dit, et si on changeait de point de vue, et si on se disait, je me mets dans les yeux de l'océan pour l'écouter, parce que ça fait 4 milliards d'années qu'il est là, mmh. et qu'il nous observe, nous, sapiens, et qu'il nous regarde, et qu'il nous voit petit à petit lui grignoter du terrain.
Bon, ben on verra si vous arrivez à nous convaincre tout à l'heure. On se retrouve dans un instant avec un message et questions des auditeurs. C'était la voix de Jen à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Il n'y a eu aucun signe avant-coureur d'orage.
Quand moi j'ai vu la dame et le monsieur allongés par terre, on a tout de suite... Ah oui, j'ai dit il y a du monde par terre. Hein.
En général, quand il y a un orage, on entend le tonnerre, on en voit, et puis après il vient, il s'approche. Il n'y a rien eu. Le premier coup de foudre était pour nous.
Quand on les voit tomber à la renverse comme les pétales de fleurs, c'est terrible. Ça, on ne peut pas oublier ça.
Voilà, extrait d'un documentaire diffusé en 2018 sur France Culture autour de l'événement foudroyant justement d'Azraï en 2017 en Meurthe-et-Moselle. On y reviendra avec vous, Claire Fercac, qui publiait donc ce livre « Après la foudre » chez Artaud. Pour aborder toutes les questions liées à ce phénomène naturel, c'est absolument passionnant. Et vous avez un fil rouge dans l'histoire, celui d'Héléna, je le disais, hein, qui le 16 août 2015 donc a été fulgurée. C'est une vraie personne ou vous l'avez imaginée pour le livre ?
Non, j'ai imaginé Héléna, c'est un personnage fictif. tous les symptômes, tout ce qu'elle vit et qui est lié à la fulguration est basé sur ce que m'ont raconté les fulgurés. Vous avez passé un extrait des fulgurés d'Azraï, je reconnais bien leur voix puisque je les ai interrogés. Mais ensuite, j'ai considéré que, déjà parce que je fais de la littérature, que ces personnes que j'ai interrogées, je ne les ai pas interrogées sur leur vie privée, sur leur enfance. Donc tout ça, je l'ai inventé. Et si eux ont envie de témoigner, je pense que c'est à eux de le faire et pas à moi de parler à leur place.
Ouais, donc on le redit, hein, une personne fulgurée est une personne qui a échappé finalement à la foudre, alors que les foudraillés, eux, sont décédés. Vous montrez dans ce livre à quel point le choc est d'une très grande violence pour le corps humain. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe exactement alors quand on reçoit la foudre ?
Alors ce sont des millions de volts, des ampères extrêmement forts. Ça peut être une très grosse brûlure. Ce qui sauve, c'est que le temps de contact en fait est très très court. Donc la violence du choc, elle secoue tout l'être. La foudre peut vous traverser et donc il y a des points d'entrée, des points de sortie. Vous pouvez avoir des brûlures sur la peau, mais vous pouvez avoir à l'intérieur, des organes touchés, le cerveau touché, donc des blessures qui sont au départ invisibles. Et vous pouvez même avoir ce qu'on appelle des symptômes retardés, des symptômes invisibles, qui vont apparaître 6 mois après la fulguration. C'est le temps que les nanoparticules, le temps que l'électricité qui reste dans votre corps se déplace. Et cette électricité, elle peut rester un an, voire un peu plus, et vous pouvez avoir des symptômes Des mois après la fulguration.
Et les fulgurés décrivent le même ralentissement au moment du choc. Il y a vraiment cette scène, cette vision, quand ils voient la foudre, c'est vraiment le temps se suspend, quoi, finalement.
Ça, c'est très étonnant, parce qu'en fait, l'expérience est très violente et très rapide, et tous décrivent ce moment qui, alors pour les spécialistes de traumatisme crânien, qui est lié à la fois à la violence et au choc, au fait que souvent on peut être projeté en arrière par la violence, et aussi au fait qu'on a l'impression d'assister à sa propre mort. Et là, il y a un ralentissement du temps et aussi l'effet de la foudre, parce que certains disent « j'ai vu une lumière blanche, une lumière bleue ». Donc, en fait, ce voisinage avec la mort fait aussi qu'on a eu l'impression d'avoir une vie complètement ralentie.
C'était beau l'image du monsieur là dans l'extrait de France Culture, avec cette image du pétale, hein, de la fleur.
Tout à fait.
Ces pétales qui tombent.
C'est exactement ça.
Est-ce que c'est fréquent ? En France, on a des chiffres sur le nombre de fulgurés et de foudroyés d'autre part ?
On a des chiffres, il y a très peu de foudroyés, c'est 10 à 20 par an en France. Les fulgurés sont plutôt estimés entre 100 et 200, mais ce que disent les spécialistes de la foudre, les médecins de la foudre, qui sont les kéranopathologues, c'est qu'il y a plus de cas, peut-être probablement 500, mais que les fulgurés qui n'ont pas de séquelles trop graves ne vont pas se signaler au service d'urgence, en fait.
Et donc, évidemment, la probabilité quand même est très faible d'être touché.
Oui, moins d'une sur 1 million, n'ayez pas trop peur.
Oui, mais alors justement, qu'est-ce qui va favoriser le fait de se prendre la foudre, de se prendre la foudre, et qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire, par exemple ?
Il y a des tas de choses à ne pas faire, mais ce qui est très compliqué, on le voit avec les fulgurés d'Azraï, c'est que ils étaient en promenade, certes, mais par beau temps, l'orage n'était pas annoncé, et l'orage était assez loin. Il faut savoir qu'un éclair peut frapper 40 km plus loin, hors de la zone orageuse, donc on peut toujours essayer de prévoir, évidemment. On peut regarder les conditions météo, mais surtout si on fait de la randonnée, si on est en montagne, on connaît à peu près les choses à ne pas faire. En fait, la chose essentielle à faire, c'est s'éloigner des arbres, des autres, plus de 6 mètres. Et surtout, normalement, il faut se mettre accroupi sur ses talons et ne plus bouger. Parce que si vous commencez à marcher, la différence de tension entre vos pieds va attirer la foudre.
Et Juliette Lambeau, vous qui avez été reporter pendant 20 ans pour Thalassa, est-ce que vous avez assisté à des événements comme ça liés à la foudre en mer, par exemple ?
Alors, moi non, mais je sais que c'est quand même assez redouté. Le gros, c'est souvent associé, alors même si j'apprends là, que ça peut toucher à 40 mètres au-delà de la zone.
40 km,
pardon, au-delà de la zone où l'orage naît. C'est vrai que le gros temps est quelque chose qui est toujours redouté en mer, que ce soit les vagues, la houle et effectivement la foudre.
Il y a des conseils d'ailleurs avec le mât du bateau dans votre livre.
Tout à fait. J'essaie de faire un peu de prévention à la fois.
Alors justement, 1 million en moyenne d'éclairs par an en France. Il y a le pays qui a le plus grand nombre d'éclairs. Bon, il y a des petits chiffres comme ça qui sont amusants. Je crois que c'est le Venezuela.
C'est au Venezuela, sur le lac de Maracaibo, ils ont plus de 260 nuits par an où il y a des éclairs toutes les minutes.
Il y a plus de victimes ou pas ? Ou c'est pas forcément proportionnel ?
Non, parce que assez peu de gens y vivent. Des touristes y vont pour prendre des photos parce que c'est absolument sublime. Mais évidemment, il y a des régions où il y a beaucoup plus de fulgurés. On peut parler de l'Australie, des États-Unis, de certaines régions d'Afrique aussi.
Mais pourquoi dans ce lieu du Venezuela, donc il y a beaucoup plus d'impact de foudre? Vous l'expliquez, ça peut être lié à l'humidité du lieu, à la présence d'uranium par exemple, il y a plein d'hypothèses
qui ne sont pas toutes totalement vérifiées, parce qu'en fait, le questionnement sur la foudre, il est en cours. D'ailleurs, la médecine de la foudre, elle est née en 95, on est face à des choses très récentes. Ce qui est intéressant, c'est que des groupes de recherche se forment et mélangent les disciplines. Il y a des physiciens, des géologues, il y a les médecins de la foudre qui sont plutôt spécialistes du cerveau ou des brûlures. Donc ça, c'est une recherche en cours. Moi, c'est ce qui m'intéressait aussi.
Ouais. Il y a des éléments très marquants. Vous vous rappelez par exemple qu'en août 2016, dans un parc régional norvégien, la foudre a tué 123 rennes dans un rayon de 50 mètres à peu près. Il y a des photos, il y a une photo, il y a un livre qui est très impressionnante. Et puis en 98, au Congo, autre événement encore plus dramatique puisque les victimes sont des humains.
L'orage gronde au-dessus de la République démocratique du Congo ce 27 octobre 1998. Un match de championnat régional se dispute sous les éclairs sur une pelouse détrempée du village de Benachadi dans le sud-centre du pays africain. Quand soudain, la foudre s'abat sur le terrain. Conséquence dramatique. 11 joueurs meurent foudroyés. Au moment du drame, les joueurs épargnés portaient des moulets, contrairement aux victimes touchées mortellement, qui avaient des chaussures avec des crampons métalliques, attirant ainsi la foudre comme un paratonnerre.
Voilà, événement dramatique que vous relatez, Claire Ferkakin, dans votre livre, donc Après la foudre. Alors parlez-nous quand même des symptômes et des séquelles, parce qu'il y a des choses quand même très étranges. Vous décrivez par exemple certaines capacités cérébrales qui seraient augmentées après avoir été fulguré.
Tout à fait, c'est ce que décrivent plusieurs fulgurés et plusieurs médecins de la foudre. Ce sont ceux qui ont été extrêmement chargés en électricité, ceux dont le cerveau a été touché. Et ils se retrouvent souvent des mois après tellement chargés d'énergie qu'ils ont ces capacités cérébrales augmentées, ce qui signifie qu'ils arrivent à faire plusieurs choses à la fois. Donc par exemple, être en train d'organiser quelque chose et puis discuter avec quelqu'un. Et ils ont aussi accès à des choses qu'ils ne savaient pas faire ou qu'ils ne savaient plus faire, comme parler d'un coup parfaitement espagnol, alors que c'est une langue qu'ils n'ont pas pratiquée depuis des années.
Incroyable.
Faire des opérations de 5 chiffres par 5 chiffres, tout cela en même temps. Et dans ces capacités cérébrales, certains ont ce qu'on appelle l'accès aux souvenirs de la petite enfance. Et ça, c'est complètement sidérant, parce que normalement, on n'a pas accès à ces souvenirs-là.
Mais ça, ça a été validé par la médecine. Enfin, il y a eu des observations très sérieuses qui ont été faites, ou c'est juste sur des témoignages
Eux, ils interrogent beaucoup, évidemment, les fulgurés, mais ils croisent vraiment les recherches avec l'imagerie cérébrale. Ils travaillent, eux, justement, dans les laboratoires avec les physiciens pour essayer d'étudier tout ça. Évidemment, il y a toujours certains médecins qui leur disent « bon, je ne te crois pas trop ». Après, à partir de quel moment on décide de mettre en doute la parole de quelqu'un qui vit ça et qui le raconte?
Oui, mais ça paraît complètement dingue. L'exemple d'un coup, on parle espagnol alors qu'on n'a jamais parlé espagnol. Toute langue est un apprentissage, donc ça paraît assez fou, vraiment.
Oui, mais c'est dans l'autre sens, vous savez. C'est justement parfois vous allez mal, on vous fait un électrochoc pour vous
stimuler.
Voilà, mais c'est la même chose. Ça inverse la polarité des cellules. Ça bouleverse votre cerveau. Et ce qu'on sait quand on travaille beaucoup sur le cerveau, j'ai fait beaucoup de recherches pour un précédent livre, c'est que la plasticité cérébrale, elle est fantastique. On peut avoir une zone retirée dans le cadre d'une tumeur, perdre quelque chose qu'on retrouvera des mois plus tard. Ça arrive. Donc moi, je crois à ça. Et tous ont raconté des souvenirs de fêtes qu'ils avaient vraiment oubliés, que personne dans leur famille ne pouvait se rappeler. Ça, c'est très frappant. Ce qui est dur pour eux, c'est que quand l'électricité finit par sortir du corps, il perd de ses capacités cérébrales augmentées. Là, c'est souvent le moment un peu difficile.
En tout cas, les symptômes, c'est grand épuisement souvent. Alors, des brûlures, bien sûr, des acouphènes. Certains fulgurés entrent en dépression parce que psychiquement aussi, ça atteint énormément les personnes. Il faut imaginer que c'est un choc terrible quand même et que ça dure plus sur le temps. Et puis, il y a aussi cette marque sur la peau avec cette feuille de fougère. Là aussi, vous avez mis une photo dans le livre où la figure de Lichtenberg. Ça, c'est vraiment le courant électrique qu'on voit qui est comme finalement tatoué sur la peau.
C'est assez fou, c'est très beau, on peut en trouver plein. Ce qui est fou, c'est que c'est une brûlure qui disparaît quelques jours après. Certains fulgurés disent même, c'est peut-être la seule chose que j'aurais voulu garder, parce que c'est comme un tatouage naturel très beau, qui est dû à la rupture des capillaires sanguins sous la peau, en fait.
Camille, il y a des questions.
Hein. Bah, Germain demandait sur l'application France Inter si les figurés gagnaient des super pouvoirs, donc on lui a à peu près répondu. Et Gérard, lui, nous dit qu'il est voyageur à cheval et qu'il a donc essuyé déjà pas mal d'orages. Il demande, Gérard, sur l'application France Inter, toujours quelle attitude adopter quand on est à cheval. Est-ce qu'il faut par exemple descendre du cheval pour être le moins haut possible?
Alors je pense qu'il vaut mieux effectivement descendre du cheval et surtout rester immobile. Après on dit toujours ah c'est l'arbre le plus haut qui va être touché par la foudre. C'est pas forcément ça, c'est pas toujours le point le plus haut, c'est souvent le point le plus humide, l'arbre qui aura le plus de sève. En fait c'est ça qui crée aussi le... Ouais. L'appel de...
On peut aussi mettre son parapluie de foudre, comme ça existait au 18e, hein, pour les hommes, ou son chapeau paratonnerre pour les dames.
Hein. Oui, c'était très en vogue au 18e. Ouais. Il y avait tout un tas de salons de physique où on expérimentait des choses en pensant que c'était à la fois joli et drôle. En fait, c'était de véritables dangers.
Vous parlez en tout cas d'un garde forestier américain qui a été touché 7 fois par la foudre, et même entre Guinness Book des records, parce que c'est incroyable. Bon, en même temps, il travaille en extérieur, donc...
Oui, tout à fait.
Mais
il y a aux États-Unis chaque année la remise du trophée, hein, du survivant de l'année, avec une sorte de concours de celui qui a été...
Et puis alors, autre chose pour terminer, pendant la pandémie, des météorologues américains ont observé une diminution importante du nombre d'éclairs. Est-ce que ça, on arrive à l'expliquer vraiment scientifiquement ou pas?
Mais c'est surtout aux États-Unis qu'ils ont mené ces études. Je crois que c'est plus de 30% de baisse, ce qui est quand même énorme. Donc eux, ils pensent que c'est l'arrêt, effectivement, de l'économie. En fait, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a plus d'éclairs à cause du réchauffement climatique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus d'électricité dans l'air, plus de 15%. Que cette électricité, qu'est-ce qu'elle provoque dans les orages, des éclairs qui sont plus forts et qui provoquent des incendies. Les incendies provoquent des méga-feux. Donc, tout cet oxyde d'azote dans l'air, il est évident que ce n'est quand même pas très bon. Mais les chercheurs travaillent là-dessus pour voir si vraiment ça a un effet.
Et puis, vous montrez que beaucoup de fulgurés entament aussi une deuxième vie après l'électrochoc, et vraiment dans tous les sens du terme, hein, finalement. Hein.
Oui, c'est un trauma psychique énorme. Il y a un avant et un après. Un après, souvent, qui donne envie de se rapprocher de sa famille, de la nature. Il faut quand même se dire que ce qui est sidérant, c'est que c'est peut-être la seule fois dans une vie où l'élément naturel vous traverse et le corps devient le trait d'union entre le ciel et la terre, entre la chair et le monde. Donc ça vous change forcément.
Évidemment, vous abordez la question du coup de foudre, mais on laissera les lecteurs le découvrir dans ce livre passionnant. Après la foudre, c'est chez Artaud et vous en êtes l'autrice, Claire Fercac.
France Inter. La Terre au carré.
14h27, Camille passe au vert avec, comme tous les vendredis, les bonnes nouvelles et les curiosités de la planète.
Et je ne sais pas si vous savez que la route est un énorme danger aussi pour les animaux sauvages. Plus de 200 millions d'entre eux meurent chaque année en Europe, percutés ou écrabouillés. Et ce n'est qu'une estimation puisque les données sont difficiles à recueillir. Tout le monde ne signale pas l'oiseau qui vient de se prendre le pare-brise ou le pauvre petit hérisson tout raplapla sur la chaussée. En tout cas, et elle est là, la bonne nouvelle. Nous autres humains, pour éviter l'hécatombe, trouvons des parades un petit peu partout et pour différentes espèces. Exemple, les curoducs.
En fait, c'est un système de cordes qui reste constamment tendu, mais en supportant le mouvement des arbres. Et son objectif, c'est de pouvoir laisser passer les écureuils en toute sécurité au-dessus d'un axe routier référencé comme meurtrier.
Alors, est-ce que vous visualisez donc une sorte de viaduc pour écureuils? C'est Maëlle Carnabon, cofondatrice de l'association Coab, qui les installe avec Luce Hirle. Et Michel qui les guide au sol pendant qu'elles sont suspendues aux arbres.
C'est la partie qu'on préfère de toutes les façons. Dans l'équipe, on est bien rodés, on a chacun sa place. Et donc c'est Maëlle et moi, on est chacune dans un des arbres sur les bords de route. Et Michel, donc lui, il est au sol et c'est lui qui assure la traversée de la corde.
T'as commencé à regarder en face ?
Une corde qui va être tendue de façon à respecter aussi le mouvement des arbres, elle le disait, et au plus près de la canopée si possible, avec quelques petites astuces pour faire comprendre aux écureuils qu'ils peuvent emprunter le passage. C'est pour leur bien.
On va enduire l'écureuil d'huile de noix pour essayer de les attirer et de leur montrer qu'il n'y a rien de dangereux à ça.
Et ça marche, on vous a mis une petite vidéo sur l'Instagram de La Terre au Carré. Ça marche si bien que de plus en plus de communes en installent. Il y a aussi des loutroducs, des petits passages pour les loutres, et des crapauducs, des petits tunnels, là pour les batraciens, qui sont ceux qui meurent le plus sur nos routes. La ville de Lamballe, elle, dans les Côtes-d'Armor, a carrément décidé, elle, de condamner une portion entière de départementale pour protéger ces batraciens. À partir de lundi, le maire Philippe Hercouet m'a expliqué.
Nous avons déjà essayé plusieurs solutions. Il y a 3-4 ans, on ramassait des batraciens au bord de la route avec tout un système, mais c'est compliqué. L'an dernier, on a fermé la route pendant 3 mois, mais quand on fait ça, compte tenu des variations de période et des choses comme ça, et puis le fait qu'on ne fermait pas la route pour le retour des jeunes adultes, eh bien, il y avait encore de la perte. Et donc, nous avons conduit une étude pour trouver une solution qui puisse s'appliquer de façon longue, études scientifiques, avec en plus la consultation des habitants, avec des visites sur place, plein de démarches qui ont été faites. Et nous sommes arrivés à la conclusion naturelle et logique que le plus simple et le plus efficace pour protéger ces animaux, mais la biodiversité dans le coin, eh bien, c'était de fermer cette route à la circulation.
Voilà, définitivement fermé la route, c'est les grenouilles qui vont être contentes. Pendant ce temps, à Taïwan, la chasse aux crapauds buffles. Alors ça, c'est le bruit qu'ils font, les crapauds buffles. Hautement toxiques, les bestioles. Ils ont envahi une région de l'île. Du coup, les chercheurs comme Lin Chunfu les traquent pour récupérer un maximum d'adultes afin de ralentir leur reproduction.
Leur taille est très grande. Un si gros animal, quand il est apparu à Taïwan, n'avait pas d'ennemis naturels. Il y aura peut-être des ennemis naturels plus tard, mais certains prédateurs mourront au contact du poison qu'ils sécrètent. Au début, les crapauds buffles se multiplient très rapidement. Ça affecte la faune indigène, petite et grande, et même les animaux domestiques comme les chats et les chiens.
Allez, on part maintenant dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Figurez-vous qu'elles se restaurent naturellement beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. En à peine 20 ans, ces forêts retrouvent 80% de fertilité de leur sol, leur structure et leur diversité. On l'apprend dans le magazine Science avec l'étude de 77 parcelles de tous âges par 80 chercheurs, étude publiée hier soir. Bruno Hérault, spécialiste des forêts tropicales au CIRAD et co-auteur, il est basé en ce moment en Côte d'Ivoire.
L'explication, c'est la très grande résilience des écosystèmes forestiers tropicaux. Cette résilience, elle s'explique par la persistance de la banque de graines dans le sol, par le contexte paysager qui fait qu'il y a d'autres forêts autour qui vont pouvoir ensemencer en fait les parcelles qui ont été abandonnées par l'agriculture. Et du coup, c'est vrai que cette résilience est un peu surprenante dans le sens où la forêt tropicale, c'est un écosystème très complexe, très riche, très diversifié, difficile à appréhender. Et on se rend compte en fait qu'une solution comme ça, basée sur la nature, c'est assez efficace et assez rapide. Et en plus, ça coûte pas trop cher.
Voilà, bonne nouvelle. Mais la résilience de ces forêts n'est quand même pas une raison, bien sûr, pour les détruire. Enfin, pendant que les paléontologues italiens découvrent un troupeau de 11 dinosaures fossilisés près de la ville de Trieste, des Tetichadros insularis qui vivaient il y a 80 millions d'années et qui mesuraient jusqu'à 5 mètres. Eh bien, à Londres, le Muséum National d'Histoire Naturelle n'a peur de rien puisqu'il vient d'enfiler un joli pull de Noël à son immense T-Rex de 80 mètres. Voilà, petit col roulé bleu marine avec des rangées de sapins verts en alternance avec du rouge et des petits dinosaures. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour attirer le public, hein?
Voilà, et c'est avec ce rugissement d'époque, évidemment. Hein,
recréé par les scientifiques.
Bah oui, non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est une plaisanterie. Qu'on referme, Camille, ce sujet aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, bah, dans un instant, Léo Grasset, le YouTuber star de la biologie.
Je repasserai devant ma maison, je repenserai à maman et à mon
étoile. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Je l'ai mis dans un tiroir et j'ai jeté la clé. Et jamais je ne la retrouverai. Aux oubliés, c'est là qu'elle est, qu'elle y restera pour l'éternité. Pourquoi tant de peine? Et pourquoi je n'ai pas eu de peine? La vie m'a causé quelques problèmes, mais j'ai pris le large et maintenant, dans la nuit, je pars et je quitte la maison.
Nouvelle-Orléans, c'était la femme.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Attention, je vais faire mon entrée. Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, on va se demander comment ramener des espèces disparues à la vie. Et pourquoi pas même recréer des dinosaures. Mais comme d'habitude, commençons avec une anecdote qui a duré 10 minutes. La fois où l'humanité a réussi à ressusciter une espèce disparue pendant 10 minutes.
Ben oui, et pour avoir la suite, ben il faut aller sur votre chaîne YouTube. C'est l'art du teaser, Léo Grasset, vous qui êtes à la tête de Dirty Biology et qui êtes vulgarisateur scientifique. Et vous avez déjà fidélisé plus de 2 millions d'abonnés. Et vous venez cette fois-ci nous présenter un livre. C'est chez Flammarion, ça s'appelle Le Grand Bordel de l'Évolution. Et c'est illustré par Alice Mazel. Elle a eu un rôle important d'ailleurs dans le livre. Parce que le support dessin, là, c'est essentiel.
Oui, en plus, elle a fait un nombre considérable d'illustrations qui sont en plus très très belles. Elle est vraiment très forte.
C'est votre troisième livre. Alors l'idée pour vous, c'est finalement quoi? De nous livrer tout un tas d'anecdotes dans le domaine de la biologie, hein, parce que c'est ça votre domaine scientifique. Un livre dont vous dites qu'il est fouillis, avec beaucoup de notes de bas de page. Bref, quelque chose qui peut être indigeste et assez fatigant à lire. Vous avez donc le sens de l'autopromo, on peut le remarquer. Ouais.
En fait, je voulais, ça c'est dans le prologue du livre, et je voulais éviter que les gens le consomment d'un coup, comme si c'était quelque chose de justement facile à lire. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'anecdotes. Il y a un moment où on peut saturer, un peu comme dans mes vidéos d'ailleurs.
Ouais.
Donc je pense que c'est mieux de les consommer un petit peu comme ça, en apéro, entre guillemets.
Ouais. Alors c'est donc la biologie évolutive qui est vraiment au cœur de cet ouvrage et de votre discipline. Et ce sont des thèmes que vous avez déjà abordés sur Dirty Biology?
Il y a un peu de tout. Il y a des thèmes dont j'avais parlé en vidéo, mais que du coup j'ai étoffé, parce que le livre permet de mettre plus de choses. Et après, il y a aussi des thèmes dont j'avais absolument jamais parlé sur la chaîne. J'en ferai sans doute un jour des épisodes, bien sûr. C'est le recyclage permanent.
Ouais, ouais.
Mais voilà, il y a pas mal d'originalité.
Vous gagnez quoi à passer de la vidéo au livre? C'est quoi en fait l'avantage du livre?
C'est les notes de bas de page. C'est un peu ça, hein, quelque part. C'est le fait qu'on puisse vraiment mettre énormément d'informations sans être contraint par le média vidéo qui est très rythmé. Enfin, il faut réussir à capter l'attention, la garder. Sur YouTube, c'est très compétitif pour l'attention. Alors que dans le livre, en fait, on s'en fiche. On peut vraiment faire une digression de 3 pages si on a envie, c'est pas grave.
Alors ce livre est né au départ d'un blog qui portait un nom en référence à une émission de France Inter, il faut quand même le dire. Vous le signez à la fin. Donc c'est un hommage à Jean-Claude Amezen.
C'est un hommage à Jean-Claude Amezen. Je pense que si on revenait dans le passé et qu'on disait à nous, que en fait, on en parlerait un jour sur France Inter, ça nous aurait fait beaucoup rire, je pense.
Ouais.
Oui, effectivement, ça s'appelait « Dans les testicules de Darwin » à l'époque.
Voilà, exactement. Bon, encore un petit instant pour faire connaissance pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Donc vous avez 32 ans, vous avez enseigné la biologie, vous avez énormément bourlingué, vous avez vécu dans pas mal de pays, vous continuez à le faire aujourd'hui. Et la création de Dirty Biology, c'était 2014, hein, je crois exactement. Comment on passe justement des études scientifiques à l'enseignement, à la chaîne sur Internet?
C'est un peu, quelque part, le résultat de l'absence de véritables débouchés en recherche en France aujourd'hui. C'est que c'est très dur de trouver un travail après une thèse, surtout dans la recherche publique fondamentale. Et donc, je voyais bien que ça n'allait pas le faire, quoi. J'avais essayé de construire mon propre sujet de thèse, etc. Je trouvais déjà pas des financements, donc la suite s'annonçait pas incroyable. Ouais. Et donc, je les ai passés à développer des projets, dont Dirty Biology. Et effectivement, ça s'est révélé tellement drôle, tellement chouette à faire comme expérience que...
Ouais. Voilà. Léo Grasset, allez, le livre quand même, vous êtes là pour ça, c'est chez Flammarion, Le Grand Bordel de l'Évolution. En quoi justement c'est le Big Bazar, l'Évolution?
Les règles de l'évolution sont assez simples, quelque part. Enfin, la sélection, c'est pas un algorithme très très compliqué, les mutations, etc. Juste cet algorithme relativement simple produit une diversité de formes et de mécanismes tellement intéressants, de processus. Justement, dans le livre, je parle par exemple de l'émergence de grand-mères. Fondamentalement, une grand-mère, c'est assez rigolo. C'est-à-dire, c'est un individu qui va survivre longtemps après sa reproduction pour aider la vie de ses petits-enfants, celle de ses filles, etc. C'est très alambiqué. Et ça, c'est ça que je trouve fascinant. C'est ce fourmillement de processus, de concepts qui sont renversants.
Ouais, alors, vous attaquez à des grandes questions existentielles et puis très scientifiques, pour lesquelles d'ailleurs les chercheurs n'ont pas toujours des réponses, comme la question de la vie. Qu'est-ce que la vie? Vous ouvrez d'ailleurs, je crois, le livre avec ça. Ça vous intéresse justement de pouvoir vous attaquer à ce genre de problématiques et pouvoir les vulgariser?
Moi, je trouve que c'est là où vraiment la biologie devient vraiment intéressante, c'est quand elle commence à toucher à la philo, en fait.
Ouais.
Et qu'on commence à réfléchir aux concepts qu'on tient pour acquis. Toutes les réflexions autour du concept d'organisme, d'individu, d'espèce, toutes ces boîtes mentales qu'on fabrique.
Ouais.
Je trouve que la biologie est un super moyen de remettre tout ça en question et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas si évident que ça.
Vous dites qu'il y a des organismes qui ont été découverts très récemment et qui ne collent plus du tout avec la définition classique qu'on pouvait faire de la vie.
Complètement. Enfin,
vous faites allusion à quoi, par exemple?
Par exemple, si on regarde les viroïdes, donc c'est vraiment tout simplement une molécule d'ADN qui se perpétue toute seule. Alors, vie ou pas, ça dépendra de la définition. Mais c'est quand même assez renversant de se dire, est-ce que justement une molécule qui s'auto-réplique et qui se déplace, qui affecte un individu, puis un autre, comme ça depuis des générations et des générations, est-ce que c'est vivant? Je ne sais pas.
Ouais.
Ou les prions, on se pose quand même pas mal de questions justement à ces frontières-là de vivant. Est-ce que les virus sont vivants? Oui, non, ça a quand même l'air plutôt vivace, même si ça n'a pas du tout la machinerie cellulaire, parce que ça n'a pas de cellules. On avait fait une belle définition basée sur des choses qu'on connaît, et puis là on arrive sur vraiment un domaine complètement exotique. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on va être obligé de se poser ces questions-là avec l'exploration spatiale et notamment les expériences qui sont faites aujourd'hui sur Mars ou Encelade, Europe. Ouais. On va chercher d'autres organismes vivants, mais il faut quand même se poser la question, c'est quoi vivant en fait?
Du coup, la recherche de vie parallèle, ça mobilise beaucoup les scientifiques aujourd'hui.
Oui, ça, il y a vraiment tout un tas de programmes de recherche assez intéressants des différentes agences spatiales. Je pense que ce sera un très beau métier du futur.
Ouais. Léo Grasset, de l'autre côté de la rive, il y a la mort, évidemment. Quand vous écrivez « La mort a été sélectionnée au cours de l'évolution », ça veut dire quoi exactement, ça?
Alors ça, c'est vraiment, je trouve, un des concepts les plus compliqués à expliquer, mais c'est finalement, on peut le résumer à « nous sommes des sacs de gènes ». Le sac a été plus ou moins optimisé pour durer un certain moment.
Ouais.
Mais en fait, le moment où il a déjà transmis ses gènes, il n'y a plus vraiment de raison que le sac existe. Il y a eu toute une réflexion, toute une recherche pendant presque 50 ans pour essayer de vraiment comprendre d'où venait cette sénescence, ce vieillissement. Pourquoi la biologie ne répare pas les corps? Et c'est effectivement ça la réponse. C'est-à-dire que, quel intérêt?
Ouais, on trouve des entreprises qui visent à éliminer la mort en ce moment. Ça, c'est toute l'idée du transhumanisme, par exemple. Est-ce bien raisonnable, selon vous?
On leur souhaite bon courage, parce que la biologie est contre eux, en fait.
Alors, beaucoup de choses sur le sexe aussi, c'est la grande affaire du monde. Et on trouve tout un tas de choses très intéressantes à glaner dans votre ouvrage. D'abord, vous parlez des variétés de types sexuels. Parce que c'est vrai que quand on regarde la race humaine, c'est tout à fait ennuyeux. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont tout aussi intéressantes et beaucoup plus diversifiées. Il y en a combien? On a réussi à les calculer précisément?
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, chez nous, dans notre espèce ou dans le grand groupe d'organismes auquel on appartient, chez les animaux en général, l'orientation est relativement binaire. On est mâle, femelle en fonction du type de gamètes qu'on produit. Chez les champignons, ce qui va vraiment faire la compatibilité ou l'incompatibilité, ça va être un ensemble de petits allèles, des versions de gènes. Et si on n'a pas exactement la même version de gène que celui d'en face, on peut se reproduire, on peut envisager de mettre nos génomes en commun et de faire un enfant. Et
vous parlez d'un truc hallucinant, les espèces avec un troisième sexe. Mmh. On laissera aux auditeurs et aux lecteurs surtout le soin de le découvrir. Quel est le rapport entre le sexe et les bananes? Parce qu'on croise des titres dans votre livre qui nous interrogent, mais il y a toute une histoire assez amusante là-dessus. Mmh.
En fait, c'est rigolo parce que ça, c'est vraiment un des drames de l'agriculture actuelle, c'est que les espèces clonales qu'on utilise sont soumises à de la prédation, à du parasitisme.
Ouais.
Les bananes, notamment, ont un énorme problème avec des champignons. Et l'absence de sexe chez ces bananes, puisqu'elles sont clonales, donc en fait on mange le même individu depuis plus de 50 ans, les rend très vulnérables, parce qu'elles réagissent toutes de la même façon, puisque c'est des clones. Donc si on arrivait à réinjecter un peu de diversité génétique, donc en faisant du sexe, on pourrait peut-être résoudre ce problème-là. Donc quelque part, c'est un peu nos techniques, nos pratiques d'agriculture qui provoquent ce problème-là.
Donc ça veut dire que toutes les bananes que nous avons mangées depuis qu'on est petit sont des clones, c'est ça?
Toutes les Cavendish, donc c'est vraiment les bananes qu'on retrouve au supermarché. Après, si on va au tropique, on trouve en général d'autres variétés et là, c'est plus diversifié.
Alors, beaucoup de choses sur la singularité humaine. Est-ce que les humains, à l'instar des souris, pourraient être de bons modèles de laboratoire? Ça fait partie des questions que vous posez. Est-ce que notre espèce aussi évolue encore? On peut arriver à se projeter dans le futur par rapport à ça ou pas? Ou c'est encore difficile de...
On veut se projeter un petit peu. On voit en ce moment des aérioles qui bougent. On voit des tendances. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que les niveaux de cholestérol basal diminuent. Il y a de la sélection là-dessus. On voit aussi que l'âge à la ménopause se retarde. Enfin, voilà, on a quand même des grandes tendances. C'est pas, on va pas évoluer un nouvel organe d'ici demain.
Oui, il faudrait attendre très très longtemps en tout cas.
Mais ce qui est intéressant, c'est comment on commence à avoir des données, notamment grâce à la génomique qui se répand et qui est de moins en moins chère et qui est très souvent financée par les États d'ailleurs.
Ouais. Et enfin, pour finir, puisque vous parlez d'organes, quel est l'organe génital le plus étonnant pour vous, Léo Grasset, dans le monde animal?
Je pense que c'est cette espèce de pénis comme un câble d'aspirateur là, qui demande une espèce de grande gymnastique à l'insecte qui le porte, qui donc l'introduit, puis il doit le passer sur son épaule pour le retirer doucement. Enfin, il y a vraiment des stratégies.
Il y a le dessin dans le livre. Il y a le dessin, puisque les illustrations, on le disait, sont assurées par votre consoeur Alice
Mazel.
Voilà. Ça vient de paraître, c'est chez Flammarion. Ça s'appelle Le Grand Bordel de l'évolution pour ceux qui souhaitent vous lire plutôt que de vous regarder, mais c'est pas incompatible. Vous pouvez aussi vous abonner à votre chaîne YouTube, celle que vous animez depuis 2014, Léo Grasset. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
D'être venu aujourd'hui dans le club de la Terre au Carré.
Merci.
Et dans un instant, Juliette Lambeau nous dira Touche pas à ma mère.
Holding on a faded stories, I made my way through pain. Sorry's a wasted love, honey, a wasted love. I heard you say the things were falling out. Maybe all we need was talking. We wasted love, oh, wasted love.
C'était de love, c'était Rover à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Septembre 1975. La jeune chaîne de télévision FR3, France Région 3, diffuse le premier magazine audiovisuel consacré à la mer. Son nom, Thalassa. Son fondateur, un ancien caméraman de l'ORTF, Georges Pernoud. La suite, elle a été écrite par des millions de téléspectateurs en quête d'évasion, de découverte et de rencontre.
C'est un moteur de rêve. La mer est manifestement un moteur de rêve.
Voilà, mais c'est un peu le résumé aussi de votre livre, finalement, quand même, Juliette Lambeau.
Oui.
Ce moteur de rêve, hein. En tout
moteur
cas, ça devrait.
De rêve. Oui, Georges Pernod était visionnaire parce qu'il avait déjà compris l'importance, en fait, que pouvait avoir l'océan dans nos vies. À l'époque, c'était un moteur de rêve et un moteur d'histoire. Et aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que c'est aussi un élément essentiel à notre vie, puisqu'il fournit 50% de l'oxygène qu'on respire. Mmh. Alors, on l'oublie, mais 50%, c'est énorme. Et donc, il mérite toute notre attention et tous nos soins, je pense.
Et voilà. Vous la connaissez bien, la mer, puisque vous avez été journaliste reporter pendant plus de 20 ans pour Thalassa. Vous en êtes aujourd'hui la rédactrice en chef pour ce magazine qui désormais est diffusé le dimanche après-midi, hein, il faut le redire, parce que tous ceux qui l'ont perdu de vue en prime, c'est l'après-midi le dimanche sur France 3 entre 15h15 et 17h10. Vous avez donc quasiment 2 heures de case consacrée à la mer. Et donc cet ouvrage qui paraît Touche pas à ma mer chez Tana Édition. Vous aviez des liens particuliers, vous, avec la mer avant d'entrer dans l'équipe de Thalassa ou pas?
Alors oui, moi je suis née à Marseille, en fait, donc une grande ville de bord de mer, et j'ai énormément navigué.
Ouais.
Navigué, fait du dériveur, de la planche à voile, avec vraiment une approche très sensorielle de cet élément-là, qui était se prendre des vagues dans la figure, le plaisir de la vitesse, et puis l'horizon, toujours l'horizon devant les yeux. Donc c'était un peu ça, vivre face à la mer. Et puis en ayant la chance de participer à l'émission Thalassa, j'ai eu une autre vision de la mer, peut-être plus conceptuelle, où je me suis demandé comment les hommes vivaient autour de cet élément. Voilà, l'océan unit les hommes, donc c'était ce qu'on montrait toujours à Thalassa. Donc du coup, j'ai eu une vision plus économique, comment ça marche, les flux migratoires, la pêche, et le réchauffement climatique. Et puis, au fil des années, en me penchant sur les océans, je me suis rendu compte à quel point on ignorait aussi ce qu'étaient les océans. Et que quand on regarde l'océan comme ça, c'est un miroir, en fait, on ne sait pas ce qui se passe en dessous. Plus de la moitié de l'océan est à plus de 3800 mètres de profondeur, donc on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est ça qui m'a intriguée, donc j'ai essayé de soulever un petit peu la surface de l'océan, mettre la tête sous l'eau et de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, c'est une immense machine climatique qui nous fait vivre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, donc c'était un peu ce touche pas à ma mère, dans le sens, mais ça semble lointain, mais en fait, c'est un élément essentiel.
Et comment est-ce qu'on peut parler d'une seule voix pour les océans du monde entier, finalement? Parce qu'ils ont tous des particularités, des différences. Vous avez réussi quand même à trouver évidemment qu'il y a un point commun qui est l'eau, mais comment vous avez réussi à englober, finalement, les différentes problématiques qui touchent différents lieux du globe pour parler d'une voix au nom de l'océan?
C'était parler au nom de l'océan parce qu'il fallait qu'on prenne conscience. Alors, il y a une prise de conscience géographique qui est quand même l'océan, c'est 70% de notre planète. Alors, on le dit toujours assez vite, mais c'est 70%, en fait, avec des échanges de chaleur, des échanges de courant, les poissons qui circulent d'un continent à l'autre, comme les baleines. Il n'y a pas de frontières dans l'océan, contrairement à ce qui se passe sur Terre. Donc, prendre conscience de ce monde libre, où tout bouge et tout s'échange. Donc ça, c'était quelque chose qui est commun, en fait, aux océans. Et puis, il y a quelque chose qui se passe aussi dans l'océan qui est commun, c'est cette grande dorsale océanique qui parcourt tous les océans, qui commence en Atlantique Nord, qui contourne l'Afrique, qui contourne la plaque eurasienne, l'Asie, l'Australie, et qui va mourir avec deux branches, en fait, sur la côte d'Amérique. Et du coup, et qui, en fait, est l'endroit où bat le cœur de l'océan, parce que c'est là où la matière se crée, c'est là où le magma sort, en fait, du noyau, et qui va créer petit à petit de la matière, le plancher océanique, et où les plaques vont petit à petit s'écarter. Donc c'est pour ça que les États-Unis s'écartent de l'Europe, c'est parce qu'il y a cette espèce de cicatrice, en fait, qui parcourt les océans et qui crée de la matière. Donc il y a des endroits où la matière se crée, et il y a des endroits où la matière disparaît dans les fosses océaniques. Donc c'est un espèce d'immense tapis roulant, une machine à fabriquer de la matière qui existe dans les océans. Et voilà, et donc ça, je me suis dit, ça c'est quelque chose qui existe dans tous les océans, c'est cette richesse et cette biodiversité, et c'est de ça dont on parle. C'est le plancton qui part avec le courant, c'est la biomasse, en fait, organique, c'est ce monde invisible et minuscule. Romain Troublet explique dans le livre, en fait, dirige la fondation Tara, que 2/3 de la masse organique de l'océan, c'est un monde invisible. Et c'est lui qui nous fournit une bonne partie de l'oxygène. Donc voilà, ça, il y a quand même des similitudes dans tous les océans, même s'il y a des histoires différentes, des histoires de migration, de découverte. Et puis, Sapiens est arrivé il y a 300 000 ans un peu partout.
Et c'était l'occasion de revenir jusqu'aux origines, hein, il y a 4 milliards d'années, quand vraiment oui. l'eau est apparue oui. sur Terre. Donc vous retracez finalement toute cette histoire aussi de l'océan, des océans. Et puis vous allez à la rencontre, effectivement, de chercheurs, de scientifiques, de navigateurs, qui vous racontent aussi leur approche et leur sensibilité face aux océans. Il y a Nadine Lebris, par exemple, qui plonge sur les dorsales océaniques. C'est une des rares femmes qui va au fond des océans. Qu'est-ce qu'elle ramène finalement comme connaissance là-dessus?
Alors donc justement, ces fameuses dorsales océaniques dont on parle ont été découvertes. Ont été découvertes lors de plusieurs plongées, surtout en 77 au large des Galapagos. Nadine Lebris, donc, c'est une chercheuse qui fait partie des rares personnes à descendre à 2500 mètres de profondeur. Il faut savoir qu'il y a plus de personnes qui sont allées dans l'espace ou sur la Lune que de personnes capables de descendre dans les profondeurs. Donc l'inaccessibilité des océans le protège, puisque du coup, en fait, peu de personnes peuvent aller l'observer. Et donc Nadine Lebris, à la fin des années 90, a la chance de pouvoir descendre sur ces dorsales océaniques. Mmh. Et elle découvre, comme quelques chercheurs avant dans les années 80, ces fameuses sources hydrothermales. Alors, ces sources hydrothermales, elles sont fascinantes pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles sont à 350 degrés et elles sont situées sur ces dorsales océaniques. Et que juste autour de cet endroit qui semble impropre à la vie, parce qu'il y a très peu d'oxygène, pas de lumière, elle découvre un oasis de vie, une vie luxuriante, avec des moules de 20 cm, avec des vers d'un mètre de long. Et donc, du coup, c'est cette découverte-là, elle me le raconte et elle raconte à quel point on voit 350 degrés pas de vie et à 2 degrés la vie se crée. Donc elle raconte ce miracle de la vie, elle était passionnante.
Autre rencontre, Lamia SM Lali, qu'on a reçue ici, la présidente de Sea Shepherd France. On va l'écouter, elle nous parle de l'opacité justement dans le monde de la pêche et c'est aussi un des sujets de votre livre.
Vraiment, la problématique qui est derrière ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette opacité en mer. Donc, il y a énormément de captures de mammifères marins par les engins de pêche. Il y a très peu de déclarations. Pour vous donner un ordre d'idée, par rapport aux dauphins, par exemple, qui sont capturés par milliers, donc les estimations scientifiques, c'est 11 300 dauphins tués en 2019 sur la façade atlantique française. On est à 4 déclarations. On a un pêcheur qui nous explique qu'en 3 mois, ils ont tué 12 phoques. Aucune déclaration. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne déclarent pas? C'est parce qu'en fait, on identifierait des bateaux de pêche comme étant destructeurs de biodiversité. Aujourd'hui, les pêcheurs sont dans la position d'automobilistes à qui on demanderait d'aller déclarer eux-mêmes leurs excès de vitesse sans poser de radar ou de contrôle. C'est exactement la même chose.
L'image est étonnante, effectivement, et Sea Shepherd milite activement justement pour lever cette opacité et s'inspire de l'Australie pour essayer de faire en sorte que les bateaux de pêche possèdent des caméras, c'est ça, pour
absolument,
filmer toutes
à bord,
les actions.
Pour filmer ce qu'on appelle les prises accidentelles. Il y a eu beaucoup de dauphins qui ont été en fait pris accidentellement dans les filets sur l'Atlantique, et donc c'est une espèce qu'on estime en danger. Donc voilà, donc c'est tout. Elle milite pour qu'il y ait moins d'opacité. Pas pour être dans la répression pour la répression, mais parce que cette biodiversité qui est au fond des océans, elle est essentielle. Et on n'arrive pas on peut pas pêcher sans cesse, sans avoir d'impact sur la biodiversité. Donc c'est essentiel.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou ce que vous auriez le plus remarqué depuis plus de 20 ans que vous travaillez pour Thalassa? Est-ce que vous avez vu des choses changer dans le mauvais sens ou dans le bon sens?
Alors, j'ai vu des choses changer dans le mauvais sens, mais un peu comme tout le monde. Le plastique arrivait, bien sûr. La bétonisation des côtes, effectivement. La surpêche, la turbidité le long des côtes également. Et puis, ce qui m'a marqué, moi, ces dernières années, c'est aussi la résilience de la mer, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être toujours dans quelque chose de négatif. Il faut se dire, sinon on lâche tout, on se dit tant pis. Et en fait, la mer est résiliente, elle a une capacité à se régénérer elle-même si on lui fout la paix, entre guillemets, voilà, si on la laisse tranquille. Et il y a des systèmes qui marchent, qui s'appellent aires marines protégées, en fait. On les a testés à Bagnoul-sur-Mer, nous, en France, il y a plus d'une cinquantaine d'années. Et dans ces endroits-là, ces sanctuaires où en fait, on préserve l'écosystème marin, la biodiversité se régénère, et ça marche. Et les chercheurs ont découvert que si, en fait, il y a une règle, c'est si on, sur une côte qui fait 100 km de long, si on protège 30 km, en fait, on protège les 70 km qui reste. Parce qu'il y a un phénomène de dissémination autour de ces 30 km. C'est-à-dire que ce qui se régénère au cœur du sanctuaire va aller alimenter en fait la ressource autour. Donc il y a un vrai défi d'augmenter ces aires marines protégées et pas seulement le long des côtes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le réchauffement climatique, en fait, les espèces migraient vers le fond. Donc il faudrait créer un réseau d'aires marines protégées à la fois. Voilà, les poissons passent d'un pays à l'autre.
Et vous, un souvenir très vite de reportage qui vous a marqué à tout jamais grâce à Thalassa?
Oh, un souvenir.
En France ou à l'étranger d'ailleurs.
À l'étranger, c'est la découverte de Djibouti justement et de son paysage volcanique et du lac Assal. C'est quelque chose d'extrêmement fort visuellement et on a l'impression qu'on est tout petit face à cette nature. Voilà, puis c'est la traversée du Pacifique en cargo avec une tempête. Enfin, c'est des images fortes effectivement.
Touche pas à ma mère, même si les cargos, vous en parlez aujourd'hui, sont vraiment des navires très délétères pour les océans.
Exactement.
C'est chez Tana Édition et puis donc Thalassa le dimanche après-midi 15h15, présenté par Sabine Quindou.
C'est ça.
Merci beaucoup, Juliette Lambeau.
Au revoir, merci.